franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, quel sens donner à nos vies avec Edgar Morin?
Toute l'aventure humaine, comme l'aventure de la vie, mais notre aventure humaine, est une aventure inconnue. On ne pouvait pas savoir dans les petites sociétés de la préhistoire qu'on entrerait dans un monde de société historique avec État, ville, etc. On ne pouvait pas savoir. Toutes les étapes sont absolument inattendues. Le développement de la civilisation industrielle était absolument inattendu. Je veux dire que... et puis, prenez le 11 septembre, prenez l'élection de Trump, prenez ce qui va se passer en France. Donc, si vous voulez, il faut, à mon avis, savoir que nous vivons une aventure qui comporte sa part d'inconnu, que ça a toujours été le cas pour l'humanité. Bien entendu, nous avons besoin le plus possible de sécurité, comme les sécurités sociales, les sécurités de l'emploi, les sécurités de santé. Mais nous n'avons aucune sécurité sur ce que sera le destin de notre vie personnelle, le destin de notre société. Ouais. Et donc, il faut vivre étant capable d'affronter l'incertitude, mais avec les élans que peuvent nous donner le sentiment de fraternité, de solidarité, de communion.
Ouais, alors ça aussi, c'est nos antagonismes, hein. C'est cette perception, cette réalité de nous-mêmes, c'est moi-je, et puis aussi le moi-je intégré dans une communauté. L'un ne va pas sans l'autre. Hein.
Exactement, je pense que l'aspiration humaine profonde, c'est celle de la réalisation du soi, c'est-à-dire du je, mais toujours au sein d'une communauté, d'un nous. Parce que si le je est étouffé par le nous, nous perdons notre personnalité, et si le « nous » est dissous par le « je », nous vivons dans un égoïsme fermé qui ne nous donne aucun bonheur. Donc c'est ça qui nous donne le sens de la vie. Parce que la vie, nous la recevons, nous ne savons pas pourquoi, elle n'a pas de sens. Mais je dis « nous », à nous de lui donner une sens. Moi, quand je parle de la qualité poétique de la vie, c'est-à-dire cette possibilité de communier, d'admirer, de nous émerveiller, d'aimer, de jouer, etc. C'est ça que nous, pour moi, le sens que je donne à la vie. Et en plus, c'est le seul sens qui puisse non pas dissoudre, mais refouler les angoisses et les peurs de l'inconnu et de la mort.
C'est ça. Mardi, les spécificités du cerveau humain comparées à celui de l'animal avec Pierre-Marie Liédo.
Certains s'inscrivent dans un continuum et nous disent que finalement entre le primate non humain et l'humain, il y aurait que un saut, disons qualitatif, mais non pas quantitatif, mais non pas qualitatif. Pour d'autres, l'humain a des particularités qu'on ne retrouve pas.
Alors lesquelles, par exemple ?
Ben, écoutez, pour moi, puisque je fais partie effectivement de ce deuxième courant de pensée qui voit au travers des neurosciences des spécificités au cerveau humain, je dirais que peut-être la première, c'est la possibilité d'avoir une machine bayésienne, un gros mot qui veut dire simplement des inférences, des calculs. Tiens, si tu fais ça, t'auras cela. Et si tu fais cela, t'auras encore mieux. C'est-à-dire le pronostic...
L'anticipation.
La projection dans le futur. Ce que les philosophes appellent le désir, finalement. Hein, ouais. Cette capacité de sortir de l'acte présentiel et nous projeter dans le futur.
Alors ça, l'éthologie découvre des choses chez les animaux, quand même, à ce sujet-là. Hein, quand
alors...
même.
Effectivement, on peut voir un écureuil amasser les glands à la fin de l'été. Est-ce qu'il est déjà en train de prédire un hiver rigoureux? Je pense pas. Il est certainement dicté par des cascades déterministes parce que la photopériode a été réduite, des chutes d'hormones et finalement un comportement qui a été sélectionné au travers de l'histoire de l'espèce.
Enfin, chez les corvidés, on a de beaux exemples aussi quand même d'anticipation. C'est-à-dire qu'un corvidé est capable d'ouvrir une boîte en ayant plusieurs étapes de réflexion, justement.
Effectivement. Hein. Et donc là, c'est là où on peut voir des sauts plutôt qualitatifs ou quantitatifs. Que qualitatif, c'est-à-dire que on peut toujours trouver des vestiges dans les traits que l'on va attribuer à l'humain, l'empathie, le calcul du pronostic futur, mais on va être dans un niveau de complexité évidemment autre.
Chez Homo sapiens, hein,
chez Homo sapiens,
en l'occurrence. Mercredi, les nouveaux pères existent-ils vraiment avec Béatrice Caméraire et Marie Thirion?
Oui, alors ça faisait partie des grandes questions que j'ai abordées dans le livre, parce que moi j'étais emplie de ces espèces de discours médiatiques ultra réactionnaires, comme quoi les pères depuis mai 68 c'est la catastrophe, ils tiennent plus leur famille, ils tiennent plus l'autorité, toute la société est en décrépitude à cause de ça. Donc moi je voulais regarder un petit peu ça, voilà, pour me rendre compte qu'évidemment mai 68 n'avait pas particulièrement été aussi révolutionnaire de ce point de vue-là, puisque l'évolution de la paternité a subi des multiples reconfigurations depuis au moins 2000 ans, parce que bon, on se réfère tout le temps à la paternité romaine, mais voilà, de multiples reconfigurations où on a peu à peu dit que les pères, bah, ils allaient devoir s'investir dans l'éducation, que les pères, ils allaient devoir travailler loin de la maison, bref. Et puis alors donc, pour arriver aux nouveaux pères, parce que ceux qu'ils fustigent, tous ces gens-là, c'est quand même ces nouveaux pères qui deviendraient presque des mères. Et alors là, c'est plutôt le constat inverse que montrent les études, à savoir qu'ils sont pas très très nombreux. Les femmes ont beaucoup plus investi la sphère professionnelle que les hommes n'ont investi la sphère domestique. Alors évidemment, il y a des choses qui avancent, qui progressent, mais là, au mois de février encore, l'INSEE a sorti une étude montrant que au moins pour une personne sur deux, les pères sont considérés comme étant moins capables de répondre aux besoins des enfants. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Marie Thérion, on reste dans une société ultra machiste en France quand même à ce niveau-là aussi, hein.
Oui, de toute façon, autant une entreprise peut comprendre qu'une mère s'absente parce que son gamin a 39 et qu'il faut l'emmener chez le médecin, autant l'homme, le père, la plupart du temps n'osera pas, et s'il essaie, il a beaucoup plus de chances pour que ça ne soit pas admis dans son milieu professionnel.
Ouais. C'est quand même inouï, non, hein ? Rendez compte, les progrès qui restent à faire dans ce domaine-là, ne serait-ce que de pouvoir poser des jours en tant que père, même si on a une compagne ou une mère à ses côtés, c'est encore mal vu par la société.
Ah oui, c'est mais ta femme peut pas le faire.
Oui,
c'est quoi cette histoire ? Elle n'est pas disponible.
Jeudi, les réponses des candidats à l'élection présidentielle aux enjeux scientifiques avec Édouard Brézin, auteur d'une tribune dans Le Monde.
On s'est mis à une douzaine et dans des spécialités variées. On s'est retrouvé avec beaucoup trop de questions. On en a choisi quelques-unes et nous nous sommes retournés vers un certain nombre de nos collègues chevronnés dans des disciplines diverses pour avoir leur réaction et leur retour. On a rencontré un grand enthousiasme de la part de ces gens qui étaient des chercheurs très chevronnés. Il y avait parmi les gens qui nous ont soutenus, 6 prix Nobel, des économistes célèbres comme Thomas Piketty, Daniel Cohen, Philippe Aguillon, etc. Donc, des gens très connus qui ont trouvé que c'était légitime de demander aux gens qui se présentent devant cette élection ce qu'ils pensaient d'un certain nombre de grandes questions qui intéressent nos concitoyens. Il ne s'agissait pas de rentrer dans les détails des programmes de recherche. Il s'agissait de savoir ce qu'ils pensent, que pensent nos candidats de l'influence de l'homme sur le changement climatique, que pensent-ils du rapport qui a été fait, qui a été présenté à Madame Marisol Touraine l'année dernière sur les vaccinations et l'extension de l'obligation de vacciner, etc. Donc beaucoup de questions qui, vous voyez, concernent tout le monde. Ouais. Hein, il ne s'agit pas de la science pour les scientifiques. Donc voilà, donc à ma grande surprise, grande déception, nous n'avons pas eu de réponse. Je dois dire que
aucun candidat même n'a envoyé de signal disant que les équipes étaient...
D'équipes qui nous disaient « nous y travaillons, on va répondre, etc. » Mais dans cette campagne un tout petit peu échevelée, chaque jour pleine de nouvelles surprises, j'imagine que pour beaucoup d'équipes, la priorité a été ailleurs. Toujours est-il qu'il reste maintenant un peu plus de 5 semaines. J'espère que nous allons avoir quand même des choses à présenter. J'aimerais bien que les candidats nous disent noir sur blanc, est-ce qu'ils considèrent qu'il y a un problème sur le climat, sur le gaz carbonique, etc. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y ait des réponses noir sur blanc.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.